Bonjour à tous, ça va bien? Pas moi, j'ai un peu stressé. En tout cas, c'est vraiment une joie, merci à l'équipe de Louange, vraiment une joie d'être ici ce matin, pouvoir chanter, louer Dieu, chanter comme des oiseaux, et même mieux. Et je mesure le privilège que j'ai d'être ici ce matin, devant vous, pour partager la parole. C'est une petite pression. Surtout que partager la parole de Dieu, c'est partager cette puissance, cette parole créatrice que on voit depuis plusieurs semaines, depuis le début de l'été. Dieu a créé toute chose par sa parole et c'est ça qu'on veut partager ensemble ce matin. Non seulement on veut s'émerveiller de la création de Dieu et les vacances d'été, c'est vraiment le moment idéal pour ça. Mais on veut aussi focaliser nos yeux sur ce que la création nous montre, sur les vérités spirituelles qu'elle nous enseigne, qu'elle nous rappelle. Aujourd'hui, cinquième jour, on regarde la création des oiseaux et des poissons. Et on lit ensemble Genèse chapitre 1, versets 20 à 23. Dieu dit... que les eaux foisonnent d'une multitude d'êtres vivants et que des oiseaux volent au-dessus de la terre dans l'étendue du ciel. Alors Dieu créa chaque espèce de grands animaux marins et chaque espèce d'êtres vivants qui se meuvent et foisonnent dans les eaux. Et chaque espèce d'oiseau ailé. Dieu vit que cela était bon. Et Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux aussi se multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dans les quatre premiers jours de la création, Dieu met en place le décor. Il crée la lumière, le premier jour, le deuxième jour, il crée le ciel, la mer, le troisième jour, il crée la terre et la végétation, et le quatrième jour, Dieu place le soleil, les étoiles, la lune. Imaginez un petit peu ce décor, je l'imagine sans bruit, silencieux, sans mouvement, calme. Et puis, le cinquième jour, Dieu dit « Action !» Dieu dit que les eaux foisonnent, que ça fourmille. C'est bizarre parce qu'il n'a pas créé les fourmis encore, mais il faut que ça fourmille quand même, d'une multitude d'animaux vivants. Par sa voix, Dieu donne vie à toutes les créatures. Il peuple les mers et le ciel. Dieu crée la vie, Dieu crée le mouvement, Dieu crée le bruit. Il y avait déjà certainement le mouvement des astres. Il y avait déjà la vie des plantes, en quelque sorte. Mais les plantes ne sont pas désignées comme des êtres vivants dans le récit de la création. Les plantes ne voient pas, les plantes ne bougent pas, n'entendent pas. Les plantes n'émettent pas de son. Dans le verset 30 de Genèse, la suite de notre passage, Dieu précise que tous les animaux ont reçu un souffle de vie. Dieu crée des animaux vivants, ayant un souffle de vie en eux, ayant la capacité de bouger, de grouiller dans la mer, de voler devant l'étendue des cieux et d'émettre des sons. Notre Dieu est le Dieu qui crée des êtres vivants. Notre Dieu est le Dieu qui crée la vie, qui insuffle la vie à une matière inerte. Qui du néant crée le mouvement. Amen. Le cinquième jour, il est très particulier. Pourquoi ? Parce que c'est aussi la première mention de la bénédiction de Dieu. Le verset 22 dit « Dieu les bénit ». Dieu crée les oiseaux et Dieu les bénit. Cette bénédiction de Dieu, elle a rien d'anodin, elle a rien de de juste ordinaire. En fait, quand Dieu a créé toute la création, sa finalité, c'était justement de la bénir. Bénir la création, l'humanité tout entière. Et c'est ça le projet extraordinaire de Dieu. La particularité, c'est que Dieu bénit les poissons et les oiseaux en leur disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, remplissez les mers. » En les bénissant, en bénissant les poissons et les oiseaux, Dieu crée aussi la capacité pour chacune des espèces de se reproduire, de reproduire la vie qu'il a insufflée en eux. C'est extraordinaire. Dieu leur donne la capacité de prospérer et de nager dans le bonheur. Plus tard, toujours dans ce même passage de Genèse chapitre 1, Dieu accorde cette même bénédiction à Ève et à Adam. Un peu plus tard dans le livre de la Genèse, Dieu bénira aussi Abraham en lui promettant de bénir aussi toutes les familles de la terre. C'est pour ça que c'est important, cette première notion de la bénédiction. L'histoire de la bénédiction ne s'arrête pas là, parce que malheureusement, elle a été brisée par le péché, par la désobéissance d'Adam et Ève. Mais là encore, ce n'est pas fini. La bénédiction ne s'arrête pas. La bénédiction ultime de Dieu, la bénédiction parfaite de Dieu pour nous, c'est la réconciliation qu'on peut avoir avec lui. C'est le pardon, la nouvelle vie par la foi dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit dans Éphésiens chapitre 1 verset 3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a bénis. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en raison de notre union avec Christ. C'est merveilleux de voir que Dieu crée la vie, qu'il crée aussi la capacité pour chaque espèce de se reproduire, de se multiplier, de recréer la vie. Et je vous donne juste un exemple. C'est la femelle du cabillaud, la femelle cabillaud, la morue. C'est un poisson qui vit dans les eaux froides. Et le cabillaud, il est capable de pondre en moyenne 6 millions d'œufs. 6 millions d'œufs. Ça, c'est la puissance de la bénédiction. 6 millions de petits cabillauds. Alors, il y a beaucoup d'œufs qui vont servir de nourriture à des prédateurs sur ces 6 millions. Mais c'est quand même admirable, c'est quand même énorme. 6 millions d'œufs pour un poisson. Le psaume 111 nous parle justement des œuvres admirables de Dieu. Il dit « L'Éternel accomplit des œuvres admirables et elles sont méditées par tous ceux qui les aiment. » Et c'est justement le but de cette série, c'est justement le but de ces prédications d'admirer et de méditer les œuvres admirables de Dieu. Alors ce matin, je vous propose d'admirer les poissons, de voir que admirer les poissons nous encourage à chanter. Premièrement, admirer les poissons et les oiseaux nous encourage à chanter. Je l'ai dit, comme à son habitude, quand Dieu crée, il crée les choses en grand, en géant, en infini, parce qu'il est un Dieu grand, parce qu'il est un Dieu infini. Dieu crée une multitude. Il y a d'autres traductions qui disent en abondance. Et en plus de ça, il leur demande encore de se multiplier et de remplir toute la mer. C'est merveilleux dans ce passage de voir l'intelligence de Dieu, l'intelligence infinie, sa toute-puissance pour créer chaque espèce, son intelligence, chaque animal marin. Il crée la plus grande des baleines jusqu'au plus petit zooplancton. Il crée un tout petit colibri de moins de 2 grammes et il crée une autruche de 200 kilos. Dieu crée de façon généreuse, en abondance. À l'heure actuelle, ça a été dit en introduction, on pense qu'il y a 10 000 espèces d'oiseaux. 10 000 espèces d'oiseaux différentes. Les chercheurs, ils ont un petit peu du mal à quantifier le nombre d'individus par espèce et le nombre d'oiseaux sur la Terre. Ils donnent une fourchette entre 50 milliards et 400 milliards d'oiseaux. C'est the fourchette. On trouve des oiseaux partout, dans les déserts, dans les forêts tropicales, à la ville, à la campagne. Il y en a en Antarctique, il y en a en Arctique. Et ça, c'est juste pour parler que des oiseaux. Parmi les poissons, on compte 30 000 espèces différentes et beaucoup de nouvelles espèces sont découvertes chaque année encore maintenant. C'est juste incroyable, inimaginable de penser que encore aujourd'hui, on n'ait pas découvert tous les poissons ou tous les oiseaux de la planète, toutes les espèces. Et il y a peut-être même des espèces qui ont disparu sans même que l'homme ait pu les observer. Quand on parle d'abondance, de multitude d'animaux marins, je vous donne un exemple. C'est le krill. J'ai découvert ça, c'est énorme. Enfin, c'est pas énorme parce que c'est une crevette de 6-10 cm. On pense que le krill, c'est l'espèce la plus représentée sur toute la planète. Il y aurait 500 000 milliards de krill. Les bancs de krill, ils peuvent s'étendre sur près de 450 kilomètres carrés. Ça peut peser au total 2 millions de tonnes, un banc de krill. Quand Dieu dit que les eaux fourmillent, grouillent, foisonnent d'une multitude d'animaux, c'est littéral. Et ça, c'est que pour une espèce de krill. Il y a beaucoup de krill parce que les baleines, elles en mangent quelques tonnes par an. Mais malgré ça, le krill est loin d'être une espèce en voie de disparition. L'homme, malgré toute sa science, malgré toute sa technologie, ne peut même pas réussir à compter tout ce que Dieu a fait. Et il est le seul capable d'affirmer dans le psaume 50, verset 11, « Je connais les oiseaux des cieux et je connais tous les animaux des champs. Ils sont à portée de ma main. » Plus que cela, il connaît toutes les espèces, mais il connaît chaque petit individu. Matthieu 10, verset 29, nous dit qu'il connaît chaque petit moineau, chaque petit passereau. Il dit, ne vend-on pas une paire de moineaux pour un sou? Et pourtant, pas un seul d'entre eux ne tombe à terre sans le consentement de votre Père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc aucune crainte, car vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. Ici, Jésus, il parle pas de krill, mais il parle de moineaux, qui sont tout aussi communs, tout aussi nombreux, mais aussi tout aussi insignifiants quelque part. Mais malgré que les moineaux ou les krills n'aient pas une grande valeur, Dieu les connaît et il en prend soin. Il prend soin de chacun d'entre eux. A fortiori, il en sera de même pour nous. Au sein des plus terribles épreuves, les disciples de Jésus pourront toujours faire confiance à Dieu pour prendre soin d'eux. Pas un seul des petits oiseaux ne tombe sans la volonté de Dieu. Pas un seul de nos cheveux ne tombe sans que ce soit dans la volonté de Dieu. Pas un seul petit krill ne se fait gober par une baleine sans que Dieu ne le permette. Et nous avons bien plus de valeur que tout un banc de krill. Prendre conscience de la valeur que nous avons aux yeux de Dieu devrait nous remplir de paix, devrait nous remplir d'une joie immense. Quand on considère tout ce que Dieu a créé, toute la quantité de poissons qu'il a mis dans la mer, toute la complexité, toute la beauté, toute la diversité qu'il peut y avoir dans la création, c'est admirable de penser qu'il contrôle tout et qu'il se préoccupe de chaque un de nous, chaque espèce, chaque individu. Et j'espère que cette pensée-là, elle nous pousse à le louer, à l'adorer. Je prie pour que, après avoir contemplé toutes ces œuvres admirables, nous ayons le même réflexe que les oiseaux, chaque matin, de chanter. Le psaume 148 invite toute la création tout entière à chanter. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Que les anges le louent, que le soleil, la lune le louent et toutes les étoiles. Il continue, que toutes les eaux et les cieux le louent. Il continue, que tous les monstres marins, tous les feux, grêle, neige, brouillard louent. Évidemment, que tous les arbres fruitiers, les animaux, les reptiles, les oiseaux louent l'Éternel, le roi de la terre. Le psaume au verset 12 nous invite tous, roi de la terre, peuple, prince, jeune homme, jeune femme, vieillard, enfant, qu'ils louent tous le nom de l'Éternel. Hormis ce matin, quand est-ce que c'est la dernière fois où, après avoir été émerveillé par la création de Dieu, tu as loué, tu as chanté Dieu? Comme les oiseaux, nous avons cette faculté que Dieu nous a donnée de chanter, d'utiliser notre voix pour célébrer celui qui a tout créé. Et c'est important de le faire en assemblée, comme on l'a fait ce matin. C'est important de venir utiliser notre voix dans ce moment précieux qu'est l'adoration communautaire. Et les psaumes sont remplis d'invitations à chanter et à crier notre joie de façon communautaire, ensemble. Le psaume 95 dit « Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel, louons le Seigneur, présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance, acclamons-le en musique. » Et là, je fais une petite parenthèse sur ça. Le psaume 95 nous invite à venir et crier notre joie. C'est pas possible de crier sa joie sur YouTube. Je peux suivre un culte à distance. C'est un merveilleux outil. Mais il n'y a rien de plus précieux pour les enfants de Dieu de venir se réunir chaque dimanche pour louer et chanter ensemble, ensemble. Et c'est, je sais pas si c'est votre cas, c'est pas votre cas puisque vous êtes là ce matin, mais des fois on peut avoir la mauvaise habitude de se dire « Ah, peut-être pas aujourd'hui l'église. De toute façon, je peux revoir le replay sur Internet. » Et je trouve ça triste de penser comme ça. Revenons à l'église. Revenons chanter de tout notre cœur ensemble. La prochaine fois que tu seras agacé par le chant du coq, quand tu prends tes vacances à la campagne, eh ben, rappelle-toi qu'il t'exhorte à chanter le Créateur de tout ton cœur. Admirer les poissons et les oiseaux doit aussi nous encourager à croître, à grandir. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez très bien que je suis pas un bon scientifique. Mais je pense que, comme tout le monde, j'aime admirer la beauté, par exemple, d'un paon qui fait sa roue, la beauté du plumage d'un paon. Ou je suis émerveillé devant la vitesse d'un faucon en piqué. Mais à part ça, je confesse que observer les oiseaux, c'est pas mon passe-temps favori. Et j'ai été repris en préparant ce message, parce que figurez-vous que Jésus lui-même encourage ses disciples à être de véritables ornithologues. Matthieu 6, verset 25, nous dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils ne ramassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ce passage de Matthieu, au verset 6, fait partie de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et dans l'objectif de cet enseignement, c'est que Jésus vise, c'est de dépeindre le comportement qu'il attend de chacun de ses disciples. Jésus, par cet enseignement, il souhaite faire croître, il souhaite faire grandir ses disciples. Et il le fait en les invitant à observer les petits oiseaux. Bien sûr, ce texte s'adresse à nous aussi en tant que disciples aujourd'hui. Nous voulons ressembler chaque jour un peu plus au Maître, affermir notre vol vers la cité céleste. D'ailleurs, c'est une bonne idée dans cette église que les classes des enfants s'appellent l'envol. Les classes des petits disciples qui sont formés juste à côté portent le nom de poussin, de moineau, d'hirondelle, d'aigle. Quel est le message que Jésus veut nous faire passer en observant les oiseaux ? À trois reprises dans ce passage, il donne cet ordre. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez donc pas. Ici, pour faire grandir ses disciples, Jésus tente de corriger la tendance que nous avons à réduire notre existence à une succession de repas, de vêtements, de toutes choses matérielles. Et c'est justement une tactique du diable que le diable utilise pour nous détourner du vrai but de notre vie. Le diable, en tant que disciple, le diable préfère que nous nous occupions, que nous nous inquiétions de la nourriture, de la boisson ou de quoi nous allons être vêtus plutôt que du royaume de Dieu. J'ai des progrès à faire dans ce domaine-là. Le texte mentionne l'inquiétude au sujet du vêtement, au sujet de la nourriture. Mais on pourrait rajouter toutes les inquiétudes que nous avons dans tous les domaines matériels de nos vies. Le travail, quelles études, les soucis de voiture, de patron, s'inquiéter pour ces choses matérielles est décrit dans ce passage comme un péché. Pourquoi ? Parce que quand tu t'inquiètes, tu ignores l'amour que Dieu a pour toi, pensant qu'il ne t'aime pas assez pour prendre soin de toi. Quand tu t'inquiètes, tu ignores la sagesse de Dieu en suggérant qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Quand tu t'inquiètes, tu ignores la puissance de Dieu, laissant penser qu'il n'est pas capable de prendre soin de toi. Finalement, nous consacrons tout notre cœur, toute notre pensée, toute notre force à nous assurer que nous aurons toujours de quoi vivre, de quoi survivre, et nous manquons le but, nous ratons la cible pour laquelle nous avons été créés, à savoir aimer Dieu, l'adorer et le servir. C'est pour ça que Jésus qualifie ceux qui s'inquiètent de gens de peu de foi. Les disciples qui s'inquiètent de choses matérielles sont qualifiés de gens de peu de foi. Par l'exemple des oiseaux, Jésus montre qu'il exerce sa bonté, sa providence. Il nourrit les oiseaux alors même que les oiseaux ne sèment pas, ne moissonnent pas et ne font pas de réserve. Et nous sommes bien plus précieux que les oiseaux. Ne pourrions-nous pas aussi faire confiance à Dieu pour les choses matérielles? Il y a quelque chose qui m'a titillé l'oreille quand j'ai lu ce passage. C'est intéressant de remarquer que Jésus dit que c'est votre Père Céleste qui nourrit les oiseaux. Jésus ne dit pas que les oiseaux ont un Père Céleste. Il est le Créateur des oiseaux, mais il est notre Père Céleste à nous. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que si Dieu prend soin de toutes ses créatures pour des besoins matériels, alors il accordera un soin bien plus grand à chacun de ses enfants. Comment pourrions-nous nous inquiéter encore après cela? Il est important de noter quelque chose. La mise en garde contre l'inquiétude, pour les choses matérielles, elle ne va pas à l'encontre de la prévoyance. L'exemple des oiseaux, il est encore flagrant pour ça, parce que on sait qu'il y a des oiseaux qui justement font des réserves. Ils stockent des petites graines, ils stockent des glands, il y en a même qui empalent des moustiques sur des épines pour faire un garde-manger. Et en effet, les oiseaux sont prévoyants. Ils construisent des nids, ils prennent soin de leurs œufs, les couvent, nourrissent leurs petits. Certaines espèces migrent pour fuir le froid. L'exemple des oiseaux est précieux parce qu'ils sont prévoyants, mais en aucun cas c'est un espace ouvert à l'inquiétude, car le Créateur les nourrit. Jésus interdit l'inquiétude, mais non la prudence. Et la foi en Dieu n'est pas incompatible avec le fait de prendre des bonnes dispositions pour le futur. Ce que Dieu condamne ici, c'est d'être totalement accaparé, obnubilé par les préoccupations matérielles. Voilà ce que Martin Luther écrit au sujet de ce passage. Vous voyez, Dieu fait des oiseaux nos maîtres. Quelle constante leçon d'humilité dans l'Évangile qu'un passereau inutile puisse servir d'un théologien et un prédicateur pour le plus sage d'entre nous. C'est pourquoi, quand vous entendez un rossignol, vous écoutez un excellent prédicateur. C'est comme s'il disait « Je préfère me trouver dans la cuisine du Seigneur. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. » Et il en est le cuisinier et l'hôte. Chaque jour, il nourrit de sa main d'innombrables oiseaux. Alors la leçon que les oiseaux nous enseignent, c'est d'accepter avec humilité et pleine confiance la souveraineté du Seigneur et de ne pas nous inquiéter des choses matérielles, mais à rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je voudrais terminer en guise de conclusion par ce passage d'Ésaïe. On en a chanté les paroles qui parlent du vol de l'aigle. Il dit « L'Éternel donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. » Je me souviens d'une randonnée avec Mia il y a quelques mois. Elle voulait absolument marcher toute seule. Elle voulait surtout pas monter dans le porte-bébé. Alors avec Sarah, comme on est quand même un peu prévoyant, on va prendre quand même le porte-bébé. Elle ne voulait pas monter dans le porte-bébé. Alors elle a commencé à marcher. Quelques mètres. Les mètres sont devenus des kilomètres. Mais Mia ne voulait toujours pas monter dans le porte-bébé. Évidemment, elle a commencé à se fatiguer, à se plaindre. Mais elle ne voulait pas monter sur mon dos dans le porte-bébé. Elle pleurait. Elle s'arrêtait tous les 10 mètres, se plaignait d'avoir mal aux jambes, d'être épuisée. Mais elle ne voulait toujours pas se laisser porter dans le porte-bébé. Alors avec Sarah, on ne savait pas quoi faire. Et finalement, on l'a forcée, avec des hurlements, à monter dans le porte-bébé, parce qu'on n'avançait plus. Mia, en fait, elle avait peur de juste se laisser porter dans le porte-bébé. Elle avait peur de perdre le contact avec le sol si stable et si rassurant. L'aigle, il vole de la même façon. À un moment, l'aigle, il doit accepter de s'élancer dans les airs, de quitter son rocher si stable, si rassurant. Et je pense que pour le premier vol d'un aiglon, ça doit être assez déstabilisant. De se lancer sur un pont invisible, de s'appuyer juste sur l'air qu'on ne voit pas. Et pourtant, pour l'aigle, c'est le meilleur moyen de monter à plusieurs milliers de mètres au-dessus de la terre. Pour nous qui aimons bien marcher par nos propres forces, qui aimons bien être sur un sol stable, rassurant, où on contrôle chaque situation de nos vies, c'est déstabilisant d'accepter ce pas de foi et de s'appuyer sur cette puissance de l'air, s'appuyer sur la puissance invisible du Saint-Esprit qui nous porte. Pourtant, bien que ce soit déstabilisant, c'est le seul moyen que nous avons pour que Dieu nous conduise, pour que Dieu nous porte. C'est le seul moyen pour que nous ne soyons jamais lassés, jamais fatigués sur notre route vers le ciel. Je vais prier. Merci Seigneur, merci Jésus pour le sacrifice que tu as accompli. Merci parce qu'on le voit au travers de toute ta création, tu es bon et tu prends soin de nous. Si nous sommes fatigués, si nous sommes chargés, aide-nous Seigneur à compter sur tes forces, à nous appuyer sur toi, à ne pas nous inquiéter du lendemain, à ne pas nous inquiéter des affaires matérielles, mais en toute chose, compter sur ta puissance, sur ta protection. Amen.